question. Normalement, l'expérience suscite l'étonnement qui suscite l'interrogation qui amène à l'induction et à la sagesse par la suite. Mais une expérience désagréable peut susciter la peur ou la haine qui cause un repli sur soi et un regret du réel et un rejet du réel. Or, pour devenir sage, est-il nécessaire d'avoir des expériences agréables? Est-il impossible de devenir sage si la vie est trop pénible? C'est sûr, quand la vie est très pénible, philosophiquement, ça aboutit à un désespoir. Je crois que humainement, c'est très juste. C'est que les expériences pénibles qui accompagnent toute notre vie, philosophiquement, c'est très difficile d'en sortir. Parce que on fait la philosophie de nos expériences. Et ces expériences négatives nous conduisent à un primat de la négation. Ça existe, hein. C'est très difficile de sortir, de dépasser ces expériences qui nous enveloppent, qui nous saisissent. Notre affectivité est toujours le milieu de notre pensée. Quand notre affectivité est marquée négativement, parce que on n'en sort pas. C'est sûr, c'est très difficile pour notre intelligence de découvrir inductivement le principe. Alors, c'est là où on voit que le Christ est vraiment notre salut. C'est lui qui a porté sur lui toutes ces négations. Mais au plan philosophique, purement philosophique, c'est très difficile d'en sortir. Bon, quand nous récitons la prière à l'Esprit Saint, nous disons le Père des pauvres. C'est l'Esprit Saint qui nous fait découvrir à travers la pauvreté l'amour de Dieu. Et c'est le Christ qui a porté toutes nos iniquités. Et le Christ est victorieux. C'est le cheval blanc qui apparaît avec d'autant plus de force, d'autant plus de d'éclat. De cheval blanc, que nous sommes enveloppés de la misère, conséquence du péché. Et ces conséquences du péché, on a l'impression, n'est-ce pas, qu'avec l'histoire des hommes, de l'humanité, où le Christ n'est pas exalté. Il est exalté chez les chrétiens, Mais quand je regarde le monde tel qu'il est aujourd'hui, le chrétien n'est pas la majorité. Alors, cette expérience négative peut conduire au désespoir. C'est là où on voit la nécessité et la grandeur de la miséricorde de Dieu. Dieu tient compte de ça. Et à l'égard de quelqu'un qui porte en lui les conséquences du péché dans son corps, les conséquences du péché sont encore plus proches. Elles sont son milieu. Et il est lié à ce milieu. Donc, il est lié à cette expérience négative. Mère Teresa était liée à cette expérience négative des êtres qui ne pouvaient pas s'en tirer par eux-mêmes, qui étaient accablés de la misère. Et il n'y a pas que Mère Teresa qui a connu cela. Philosophe qui est en nous n'est pas attiré par la misère. Le philosophe cherche ce qu'il y a encore de positif. Et il y a quelque chose de positif parce que on existe. L'être est au-dessus. Mais dans notre comportement, dans notre pose, on est enveloppé de miséricorde, on est enveloppé de misère. D'où la très grande difficulté de découvrir ce qui reste positif. Et la philosophie, à ce point de vue-là, n'est pas ce qui nous sauve. La philosophie constate la misère, constate combien le mal peut nous envelopper, nous saisir. Il faut dépasser la philosophie pour trouver un sauveur. Et le Christ apparaît alors d'autant plus comme le sauveur. Qu'on voit cette impuissance de l'intelligence humaine, même quand elle aboutit à la sagesse, de pouvoir donner une solution. Le mal, la souffrance accable et diminue aux forces. Seul le salut apporté par le Christ est positif. Je crois que la philosophie de l'acte, à ce point de vue-là, c'est la philosophie du bien. Et seul le Christ donne la solution. La philosophie ne donne pas la solution de la misère. Comme la philosophie ne donne pas la disposition, l'explication de la mort. Le mal peut nous terrasser et nous envelopper. Et là, on se tait, on pâtit. Et s'il n'y a pas le Sauveur, c'est terrible. Ça explique comment certaines philosophies conduisent au désespoir. Parce que la philosophie ne peut pas expliquer ce poids de la misère. Elle peut nous expliquer qu'à côté de cette misère, il y aura toujours quelque chose de positif. Mais ce quelque chose de positif découvert à travers la misère, très souvent, est comme étouffé par la misère. Il existe, mais il est comme étouffé. C'est bon de savoir les limites de la philosophie. La philosophie ne résout pas le problème du bonheur humain. Ce n'est pas la philosophie qui me donnera la solution. Elle me mettra en face ces misères. Et elle me fait attendre avec d'autant plus de force le Sauveur. Le philosophe, s'il constate cette misère, s'il la vit, il aura une force d'autant plus grande à appeler le Sauveur. Que celui qui ne connaît pas la souffrance, que celui qui trouve que tout va bien. Non? Dans l'humanité, la misère se voit, s'étale, je dirais de plus en plus, vite et forte. Parce que la seule solution à la souffrance, à la misère, c'est le Christ. C'est au-delà de la philosophie. C'est le Christ. Le Christ est notre Sauveur. Il est le Sauveur des philosophes. L'argument le plus fort pour découvrir le Sauveur, c'est justement cette souffrance qui, par elle-même, aboutit au désespoir. Faites attention, quand je parle de l'acte, ne confondons pas l'acte et Dieu. Ne confondons pas la vérité et Dieu. Ne confondons pas l'être et Dieu. Il y avait au Canada, je sais, une thèse qui très facilement pouvait conduire cette erreur. faut bien saisir les différences. L'acte, je le saisis inductivement, comme une nécessité d'affirmer qu'il existe. Mon intelligence le découvre directement. Elle saisit ce principe de la finalité. Saisissent. Et c'est grâce à cette saisie que l'intelligence, si elle pousse son enquête, arrive à poser la nécessité d'un être premier et que je ne saisis pas. Il est nécessaire qu'un être premier existe. Mais cet être premier m'échappe. Je ne peux pas le saisir. Je n'ai pas de concept de Dieu. Tandis que j'ai un concept analogique de l'acte. J'ai un concept analogique de la substance. Ce concept analogique de l'acte, mais très précieux, il m'est même indispensable pour découvrir l'existence de Dieu. C'est dans la mesure où je le saisis que mon intelligence peut regarder l'expérience de la finalité dans l'amitié et de poser cet au-delà de l'amitié, l'existence d'un être premier. Il faut bien saisir toujours les différences entre ma saisie des principes substance et fin, substance et acte, et la connaissance de l'affirmation Dieu existe, Dieu est. La saisie du principe de finalité. Comment l'être se finalise lui-même dans l'acte. Ce principe m'aide à découvrir, il est même le seul principe qui me permet de découvrir son Dieu. Il n'y en a pas deux, il n'y en a qu'un. C'est l'acte. Ce n'est pas la substance. La substance ne me fait pas découvrir l'existence de Dieu. Mais l'acte le fait. La transcendance de l'acte. De l'entelekia. Mais Dieu n'est pas entelekia. Dieu ne va je dire energia. L'acte me permet poser l'existence de Dieu. Mais il y a la saisie de l'acte qui est antérieure à la saisie de Dieu. Puisque la métaphysique est antérieure position de l'être premier. Je pose l'être premier par la métaphysique. Je découvre l'être premier philosophiquement par la métaphysique. Donc la métaphysique est saisie avant. Et une fois que j'ai saisi la substance comme acte propre de ce qui est, quand j'ai saisi la substance, quand j'ai saisi l'acte, ce qui finalise l'être, ce qui est la fin de l'être, je m'en sers pour découvrir l'existence d'un être premier. Je dis ça pour que vous ne confondiez pas, parce que saisie de l'acte, mon intelligence peut saisir l'acte. Et l'intelligence se saisit dans la mesure où, justement, elle arrive à distinguer Endelekaya et Energeia. La saisie de l'acte, c'est Energeia. Et ce qui me conduit à saisir l'acte, c'est Endelekaya. Je suis mordu par l'acte. Mon intelligence est attirée par l'acte. Et mon intelligence, dans son attraction vis-à-vis de l'acte, peut découvrir l'existence de Dieu. Et je dis l'existence de Dieu, acte pur. Tandis que je ne dis pas acte pur pour saisir le principe de finalité. C'est l'acte. L'acte d'être. Tandis que l'acte pur, c'est par l'acte d'être que je saisis un être qui est acte pur. Tout ce qui n'est pas cet être premier peut être acte, mais toujours partiellement. Mais dans l'acte, je saisis analogiquement la notion d'acte. Il faut bien saisir cela. C'est pas commode, parce que on dira Dieu acte pur, on dira Dieu acte pur. Il est être premier et acte pur. Et en tant qu'acte pur, je ne le connais pas. Je suppose qu'il existe. Mais je ne connais pas, dans le sens que je ne peux pas donner une définition de Dieu. C'est au-dessus de toute définition. Dieu est l'être en acte, totalement en acte, acte pur. Tandis que je saisis, dans toutes mes expériences, je saisis une réalité qui est à la fois acte et puissance. Tout ce que vous saisissez sur la terre, c'est acte et puissance. Mais vous pouvez justement étudier ce qu'est l'acte dans les réalités que vous voyez. Et vous saisissez cette distinction entre l'entelekeia et l'energeia. Tout acte que vous saisissez à l'intérieur de la puissance présuppose un être qui est en acte. Présuppose un être qui a comme manière d'être, d'être en acte. être, qui présuppose être en acte, n'est pas Dieu. Il me conduit à Dieu. Et l'intelligence pose l'existence d'un être premier. Et en posant l'existence d'un être premier, elle pose un être transcendant, un être qui la dépasse complètement, un être qu'elle ne peut pas définir. Donc, nous avons essayé de saisir d'en être en acte que j'expérimente l'entelekeia et l'energeia. Il y a l'être en acte qui attire, qui m'attire moi-même. Et je reconnais que je suis attiré. Et parce que je porte en moi cet être en acte, je peux à partir de là découvrir l'existence de Dieu. Mais je ne possède jamais cette affirmation, Dieu existe. Elle me dépasse tout le temps. Et je suis attiré métaphysiquement vers cet être. La nécessité absolue pour mon intelligence qui cherche la vérité, qui cherche à découvrir le vrai, est amenée à découvrir par une intelligence de l'acte en acte, de l'être. Je suis amené, conduit, je suis forcé de poser un être premier qui m'échappe. Je n'ai pas le concept de l'être premier, de l'acte pur. Je n'ai pas le concept. J'affirme qu'il m'échappe dans son existence même. Qu'il m'échappe, il est trop brûlant. Il est tout acte. Et mon intelligence reconnaît qu'il est, et en reconnaissance qu'il est, ma volonté l'adore. Le concours intelligence et volonté. Donc, il faut comprendre la complexité de l'intelligence cherchant la vérité. La vérité est simple en elle-même, mais pour moi, elle m'échappe dans sa simplicité. Et je la saisis par la complexité, dans la complexité. Il faut comprendre que la vérité, elle est dans l'intelligence, toujours. En Dieu, être et vie s'identifient, et c'est pour ça qu'il est vérité. Mais pour moi, la vérité est différente de l'être. L'être est vrai en lui-même. Et c'est par mon intelligence que je saisis la vérité de l'être. Autrement, l'être en lui-même est vrai. La notion de vrai est un transcendant. Parce que la notion de vrai est un transcendantal, elle a, par le fait même, des modalités très variées. Comme l'être, l'être se donne à travers des modalités très variées. Et tout être, en tant qu'il est vrai. Et l'être vrai, je le possède quand je saisis la vérité. La vérité qualifie mon intelligence. La vérité qualifie mon intelligence en tant que mon intelligence juge. La vérité m'est toujours donnée par une énonciation, c'est-à-dire dans un jugement. Et nous devons distinguer, nous, le jugement et la vérité. La vérité qualifie mon jugement. Qualifie mon jugement. Le vrai s'identifie à l'être. Oui. Il faut distinguer. Le vrai est identique à l'être. Mais il ajoute la capacité qu'il a d'être atteint par mon intelligence dans la vérité. L'être, en tant qu'il est intelligible et connaissable, en tant qu'il est vrai, il détermine la vérité. C'est la distinction que nous devons faire entre l'appréhension et le jugement. Le jugement seul est vrai. L'appréhension, elle demeure une appréhension. Elle ne porte pas le jugement. Tandis que c'est le jugement qui possède la vérité. C'est mon jugement qui possède la vérité. La vérité, elle est dans le jugement. Le vrai est dans l'être. Allez, nous devons faire ces distinctions parce que nous ne sommes pas la vérité. Nous cherchons la vérité. Nous cherchons le vrai. Le vrai me dépasse toujours. Alors, distinction, entelekeia et energeia. Le vrai est capable de perfectionner mon intelligence pour que mon intelligence touche le vrai et qu'elle soit vraie. Mon intelligence est vraie, elle atteint la vérité qui qualifie mon énonciation, qui qualifie mon acte de connaissance. Il est important de comprendre que pour moi, toujours, la vérité, elle est dans une énonciation. Je porte ce jugement sur quelque chose. Et cette vérité est toujours en dépendance du vrai. Du vrai qui est identique à l'être. Et qui exprime comment l'être est capable d'être intelligible, capable de déterminer un acte de connaissance. Alors, comme la vérité est toujours dans une énonciation, dans un jugement, j'aurais par le fait même qu'il y a de nombreux jugements, des jugements en métaphysique, des jugements au niveau science, des jugements au niveau mathématique, des jugements au niveau théologique, la vérité par le fait même aura des modalités différentes. Il y aura un jugement métaphysique qui me donnera une vérité suprême, qui énoncera le vrai de l'être. L'être est vrai. Et plus il est être, plus il est vrai. Et il y a vérité spéculative et vérité pratique. La vérité dite spéculative, c'est celle de la métaphysique, c'est celle de la philosophie. Puis une vérité pratique, c'est la vérité qui est dans mon activité. Dans mon activité, quand je fais quelque chose, quand je réalise quelque chose, quand je fais la cuisine, ça peut être vrai et à côté de la vérité. Ce sera vrai quand ce sera conforme à ma volonté. Je veux faire une cuisine mangeable. Si je fais une cuisine qui n'est pas mangeable, cette cuisine n'est pas vraie. Elle est vraie quand on aboutit à quelque chose de mangeable. Alors vous voyez, la vérité pratique n'est pas la même que la vérité spéculative. La vérité spéculative, c'est être conforme au vrai, à l'être vrai. La vérité pratique, c'est de réaliser ce que j'ai l'intention de réaliser. J'ai l'intention, quand je fais la cuisine, de faire une cuisine qui pourra être la nourriture de tout le bataillon. Qui sont bonnes, agréables. Ou vous renvoyez au cuisinier cuisine n'est pas mangeable. Elle n'est pas mangeable. Ou parce qu'elle n'est pas assez cuite. Vous avez donné une pomme de terre non cuite. C'est pas mangeable. Vous avez donné un beefsteak tellement sanguin que c'est pas mangeable. Sauf si on était comme nos grands-pères lisant, ils pouvaient prendre de la viande crue. Le poisson non cuit n'est pas mangeable. Alors, quand on fait un plat non mangeable, on n'est pas dans la vérité. Puisqu'on a voulu faire quelque chose de mangeable. Et ça, c'est la vérité pratique.